Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto tous les dimanches de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Aujourd'hui la moto est tout terrain à l'honneur avec notre ami Guy Pilarzy. Guy, bonjour.
Bonjour la miche, en effet tout terrain aujourd'hui à fond. Puisque tu vas nous présenter nos invités, et on aura un invité au téléphone, et en plus, on a des invitations à faire gagner au Supercross.
Ils vont quel cadeau, ça, alors, ils vont, ça
et,
c'est bien,
et,
ça.
Hein. Et au 32e, ouais. À 32e bourse de Roulers aussi. Ah,
très bien. Donc voilà. Donc retour sur le championnat de la Ligue des Flandres de motocross 2015. Hein, ce championnat s'est terminé le 26 septembre, je pense. Et donc c'était à Sangatte, c'est ça, Patrick?
Non, à Étrin.
À Étrin, d'accord. Ouais. Ah bah c'était sur le calendrier, il était pas bon alors le calendrier, la date. Très bien, voilà. Donc avec Patrick Pontini qui est directeur de course et membre du motoclub de Pécancourt. Bonjour Patrick.
Bonjour voilà. À tout le monde.
Est-ce que tout va bien à Pécancourt?
Eh bien écoute, oui, on est déjà en grosse préparation de...
Déjà de cette...
Eh oui, oui, oui.
Et combien
oui.
de salons? On approche du 40e, hein, presque.
Oui, 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 tout à fait. Ça nous rajeunit pas tout ça, mais enfin bon...
Voilà, notre deuxième invité c'est Arnaud Trenel.
Bonjour.
Arnaud, bonjour. Alors je suis resté étonné quand même, tu es président de 3 motoclubs.
Alors, par le passé, oui, c'était 3 motoclubs, 3 circuits, Le Quesnoy, Avesnes-sur-Helpe, Étrin, et tout a été rassemblé en début d'année, cette année, en 2015, pour des raisons administratives notamment, et fédérales. Donc oui, un motoclub qui gère 3 circuits, 9 compétitions, et...
Donc quel courage! Parce que déjà, ouais. Être président d'un club, c'est dur, mais alors 3!
Oui, oui, malgré tout, c'est vrai qu'on a...
Je suis resté un petit peu...
C'est beaucoup de courage, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de passionnés. Et beaucoup de passion aussi, avant tout.
Très bien, mais écoute, on en parlera durant cette émission. On va faire le point, Guy, avec donc, le directeur sportif du Supercross de Lille. Hein,
oui, Xavier Audouard,
pour cette aussi, deuxième édition. Hein.
Qui est aussi journaliste à Moto Verte et à je ne sais plus quelle revue. Et il est directeur sportif, c'est lui qui, depuis Bercy, c'est lui qui organise, qui fait venir les pilotes... Américain surtout, donc...
Il y a un beau programme cette année avec les pilotes américains, Stewart, les frères, je crois, Stewart.
Oui, les frères Stewart, oui, oui.
Donc on aura Xavier au téléphone d'ici trois quarts d'heure, hein, et puis on offrira donc aux auditeurs...
Des entrées pour le Supercross.
Pour cette deuxième édition du Supercross, voilà. Et puis aussi plein feu sur la 32e bourse d'échange.
À Roulers, qui a un thème spécifique cette année, c'est la Saint-Roléa. Donc on aura là aussi...
C'est la Saint, ce relais, ouais, c'est ça.
Voilà. Et aussi une grande première, on aura... Voilà. Il va y avoir aussi une Saint-Roléa électrique. Et malheureusement...
Électrique. Oh,
et on a un spécialiste, Nico, qui doit venir.
Non, il ne faut mieux pas en lui en parler. Je pense que ce n'est pas bon, ça va lui faire monter la tension. Voilà. Et puis, on va revenir dans la troisième demi-heure de cette émission. On va revenir justement avec notre ami Nico et puis Jean-Pierre Bonduel. On va revenir sur cette fameuse affaire qui secoue le monde sportif. Surtout le monde des Grands Prix. Hein. Arnaud, apparemment, tu étais au courant. Patrick aussi, tout le monde est au courant. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche dernier à Sepang, l'histoire Marquez-Rossi, hein, là il y en a un qui dit non, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre dit c'est l'inverse. Alors maintenant dans les auditeurs, sur les réseaux sociaux, il y en a un qui ils prennent parti, hein, maintenant ça devient un peu ça devient une guerre presque espagnole, italo-espagnole, hein.
Ah oui, au-delà de l'aspect sportif, on a un intérêt patriotique qui est exceptionnel, mais qui permet de relancer l'aspect médiatique des Grands Prix de moto, notamment en cette fin de saison. Toute cette année, on a vu une lutte entre les deux pilotes, Yamaha et Honda, et jusqu'au bout, au-delà de la piste, eh bien, on va être soumis à un duel exceptionnel. Alors au-delà, effectivement, des réseaux sociaux et aussi des décisions sportives de la part du promoteur qui sont, je pense, très sévère d'un côté et plutôt légère de l'autre.
Il y a déjà un parti pris, tu vois, toute la semaine sur tous les réseaux sociaux, c'est ça, voilà. Patrick, mais l'avantage c'est que ça fait vendre du papier, hein, parce que maintenant pour trouver des revues, d'habitude le samedi tu trouves encore des revues dans papeterie, mais alors là maintenant il n'y en a plus. Hein. Et puis Patrick nous a même dit qu'au motoclub de Pécancourt vous avez prévu de faire un petit lunch, je sais pas quoi.
On va réunir une
avec une grande télé, et d'habitude il y a deux trois personnes. personnes, et là, il y en a 40 qui ont réservé leur pour venir voir le Grand Prix.
Ouais, ouais. À mon avis, il va y avoir du monde devant les télés, donc, finalement, du monde à l'écoute.
Cette affaire-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait le buzz et ça fait le l'audimat pour la moto, en général pour la moto.
Oui,
c'est dommage qu'il faut ça, mais bon.
Oui, c'est dommage qu'il faille passer par ce type d'événement. Personnellement, plutôt que de parler foot, on va parler un peu de roues, donc c'est bien.
Voilà,
les
médias, ça va nous changer un peu.
Même si en France, l'impact médiatique est beaucoup plus faible qu'en Espagne, puisqu'en Espagne, ça devient presque une affaire d'État. Je vous rappelle que la moto de vitesse en Espagne, c'est quasiment le sport roi.
Bien sûr.
Les résultats sportifs passent lors du 20h, le soir, par une Carchazal espagnole.
Ça nous change de la France.
Ça nous change de la France. En Italie aussi, l'impact Valentino Rossi est présent.
Si, mais attends, la presse italienne, elle se déchaîne aussi contre Marquez. Bon, j'avoue que je suis j'ai un petit faible pour quelqu'un, mais
lequel
je dirais pas moi. Voilà. Bon, on en parlera tout à l'heure en troisième demi-heure de cette émission. Bonjour Christine. Alors toi aussi, Christine. Alors je sais que toi c'est Valentino Rossi.
Oui, forcément. J'ai un petit faible pour Valentino Rossi, mais c'est surtout la compétition qui m'intéresse.
Aller manger une pizza dans sa pizzeria là-bas.
Oui, bien sûr. Mais bon, on connaît quand même Valentino Rossi avec toute sa sympathie et voilà. Donc c'est important.
Voilà, les femmes avec Rossi. Ah ben écoute, dans un sens, voilà.
Et moi, je vous donnerai quelques dates du mois de novembre pour vous les rappeler.
Voilà, très bien. Et puis on va terminer ce sommaire, ce menu de cette émission avec notre technicien émérite. Bonjour Laurent.
Eh bien bonjour à tous. I believe that.
La moto tout terrain aujourd'hui à l'honneur avec notre ami, notre spécialiste, hein, Guy Pélarzic.
Oui, sauf que pendant le morceau de musique, on a parlé de vitesse. Aujourd'hui, c'est le motocross. Hein.
C'est le motocross. Mais il faut coller aussi à l'actu, Guy, hein, parce que oui, cette affaire de... Regarde, tu vois, même Arnaud qui est motocross, hein, qui est trop, je rappelle qu'il est quand même président de trois motoclubs. Ouais. Alors, chapeau bas déjà, parce que déjà un président de un motoclub, c'est pas facile.
Alors, aujourd'hui, on a aussi Patrick Patini, qui était directeur de course sur plusieurs épreuves du championnat des Flandres. Mm-hmm. Il y a eu 12 épreuves, je crois.
14, dont une annulée.
Oui.
Voilà, et puis un report. Hein. Sans gâte et train, ça a basculé.
Ça a basculé, enfin, bon. Oui. Alors, comment s'est passée cette saison de la Ligue des Flandres?
Je vais dire d'une manière générale, bien. Bien. Peut-être chez les jeunes un peu moins de pilotes. On est toujours surpris de voir les grilles avec peu de pilotes dessus. Bon, c'est vrai que maintenant c'est un sport qui. Un sport, comme je dis souvent, la moto, un sport de riche pratiqué par des gens modestes. Hein, et puis voilà, et on a un petit peu moins de jeunes. Bon. On regrette, je pense que Arnaud il sera d'accord avec moi à ce sujet. Autrement, bon, on a eu de belles courses sur des circuits bien préparés, hein, que ce soit MX1, MX2.
Quelques annulations quand même à cause du temps.
Oui. Pas d'accident grave entraînant une hospitalisation ou chose comme ça. Donc bon, généralement c'est bien passé. J'aurais un petit mot à dire tout à l'heure sur le phénomène d'agressivité que moi j'ai rencontré. Je suis pas le seul. C'est bien la première année que ça se passe. Agressivité, je veux dire, verbale.
Hein. C'est une chose qui monte, je crois, non?
Oui, mais qui fait partie. Je crois que ça fait partie d'un phénomène, on va dire, social. De plus en plus maintenant. Alors je vois pas pourquoi le motocross, on serait à l'abri de ça. Le tout, c'est intelligemment, avec une certaine tolérance, mais de la fermeté aussi. Faut reprendre les choses, quoi. Voilà, quoi. Hein, bon.
Donc, sauf un petit problème, c'est-à-dire que la Ligue, on n'a pas de classement finaux.
Je pense que toi, comme moi, comme tout le monde, a été voir sur le site de la Ligue, et je pense que c'est la société de pointage, enfin, qui travaille
Belge.
Sur les... oui, voilà, je tairai le nom, hein, ferme quand même une mauvaise pub. Ils n'ont pas été dans le coup, et on a toujours, depuis 2-3 ans, toujours du mal à avoir des résultats en temps et en heure. Bon, voilà. C'est regrettable.
C'est quand même incroyable, parce que c'est quand même... la date était bonne sur le calendrier. Hein. La dernière édition, c'était le 26 septembre. Et on va arriver au mois de novembre, il n'y a toujours pas de classement.
Toujours pas de classement.
C'est inadmissible, ça.
Enfin, il y a les classements, il y a les résultats par épreuve. On peut les retrouver.
Mais je suppose qu'il y a un classement général, après.
Bien sûr, oui. Oui. Sur lequel, d'ailleurs, on se base pour la remise des prix qui aura lieu, j'en profite, dans le mois de novembre.
Mais où?
Où le lieu n'est pas encore déterminé.
Parce que j'ai vu, en regardant un peu les classements, il y a Sorbri Gambala qui est en tête en MX1. Je pense qu'à chaque fois, il gagne.
Oui.
J'ai retrouvé que lui, quoi. Après, en MX2, bon, j'ai pas fait le calcul.
On a quelques pilotes. Il y a déjà le frère Gambala, puisqu'ils sont deux frangins. Il y en a un qui avait mis un peu la clé sous le paillasson, qui est revenu, entre autres, à Condé. La grande surprise, il est revenu vraiment en forme. Il roule très fort, il roule bien. On a également Torel qui tire son épingle du jeu aussi, même s'il a quelques soucis de santé là, actuellement. Pour l'avoir étreint, des essoufflements, enfin bon, il se soigne, quoi, mais enfin il roule très fort aussi. On a quelques jeunes, le jeune Morel, hein, qui roule pas mal. Bon, bah, sur l'ensemble, ça va. Il y en a peut-être d'autres, si Arnaud, j'en ai oublié.
Oui. il est de chez nous, il est de la Vénois, il est du motoclub, il termine deuxième du championnat MX1, avec d'ailleurs une victoire à Étrun lors de la finale. C'est Anthony Thomas.
Oui.
Anthony Thomas, âgé d'une vingtaine d'années, qui a changé de marque en début de saison. Il a quitté Yamaha pour revenir chez Kawasaki, et ça s'est plutôt très bien goupillé pour lui. Avec un début de saison délicat, il gagne à Arleux au mois d'août, gros déclic. Il finit la saison en trombe pour terminer second du championnat MX1 cette année. Donc ça, c'est exceptionnel. Et on envisage encore beaucoup mieux l'année prochaine en 2016.
Oui, c'est vrai qu'il est très bon aussi. Il faut aussi dire l'arrivée de pas mal de pilotes belges aussi. Hein. Oui. Les Belges viennent pratiquer chez nous et à très bon niveau aussi. Hein.
Bien, on va passer un petit morceau de musique et puis on vous reprend après.
Magazine de la moto, c'est tous les dimanches de 11h à 12h30. Il suffit de parler de cette fameuse affaire hein, qui secoue le sport motocycliste. Et voilà, plein de, des tas de motards arrivent dans les studios pour dire « Moi, je suis pour Rossi, moi, je suis pour Marquez, moi, je suis l'autre. » Ah, mais on n'a que 5 micros, on ne pourra pas faire parler tout le monde. Tant pis, on va faire un vote à bras levé. Hein. Je ne sais pas, Patrick, qu'est-ce que tu en penses ? Voilà. On va revenir donc d'abord, avant tout, avec nos invités, Arnaud Trenel.
Oui, ne pas confondre avec Arnaud le chanteur.
Non, pas Arnaud
bien
le chanteur.
Bien qu'il porte des lunettes à la Polnareff,
c'est Arnaud. Mais peut-être bien qu'il chante bien quand même, peut-être aussi Arnaud.
Pas trop, non.
Alors Arnaud, il est quand même, c'est président ou bien responsable de trois circuits,
oui.
Avennes, Le Quesnoy et Estrin. Et oui. Comment tu es arrivé à ces trois circuits Parce que Le Quesnoy, ils ont démissionné ou
Alors, sans entrer dans les détails, disons qu'en 2008, il y a eu une grave crise au sein du motoclub de Le Quesnoy. Et nous, on utilisait un circuit voisin, à Louvigny-Quesnoy, un petit circuit de supercross. Et l'ancien maire de Le Quesnoy est venu un peu nous débaucher en nous disant, voilà, si vous les jeunes, vous ne reprenez pas les épreuves de motocross dans les remparts, il n'y aura plus de motocross dans les remparts. Donc ça a été notre première intrusion dans le monde de la moto en tant qu'organisateur. Ensuite, il y a eu aussi des mouvements au sein du motoclub d'Avennes, puisque là aussi, les anciens avaient tendance à délaisser la volonté de moderniser le circuit, etc., etc. Donc là aussi, on a repris. Et depuis cette année, on a également repris le circuit d'Étrin, qui est le circuit d'Yves Dedon.
On parlait de justement de...
Oui, on parle de polémique dans le monde de la moto. On en a eu aussi une importante à l'époque avec Yves Dedon. On va fermer la parenthèse aussitôt.
Ça a été aussi quelque chose.
Ça a été aussi quelque chose.
D'exceptionnel. Patrick.
Ça vaudrait le coup de faire une belle émission à ce sujet également.
On ne rentrera pas dans les détails, mais enfin, faire grimper quelqu'un sur un podium. L'asperger
de champagne.
De champagne par les filles chez.
Oui. En plus, par des filles.
On lui tape sur l'épaule, on lui dit écoute, petit, tu descends de là, c'est fini, t'es plus premier.
T'es plus premier.
Moi, j'ai trouvé ça lamentable. Oui. Lamentable. Ouais.
Donc, dernièrement, on a repris le circuit des trains, puisque Yves Dedon est un entrepreneur forcené. Il a une société de bâtiments, il a une exploitation agricole, il a des gîtes. Donc lui aussi nous avait dit, voilà, j'ai plus le temps, la passion pour entretenir le circuit, puisque maintenant c'est quand même assez fastidieux d'entretenir un circuit. Et étant donné que Étrin est situé à 6 km d'Avennes, et qu'on a parfois des petits soucis de nuisances sonores, on s'est dit, allez hop, on reprend Étrin, on ouvre une semaine l'un circuit, une semaine l'autre. Ça permet un peu de dissiper la pression. Et puis tout le monde est content parce qu'on a deux circuits complètement différents. Avennes, circuit naturel exceptionnel, des grandes montées, des grandes descentes très rapides. Étrin, un circuit technique qui est à l'origine le circuit d'entraînement d'Yves Dedon. Et d'ailleurs, hier, on a ouvert le circuit à l'entraînement. On a eu quasiment une centaine de motos à Étrin. C'est exceptionnel pour ce mois de novembre. Donc voilà un peu l'historique de nos activités. Le Quesnoy, c'est uniquement de l'événementiel. Donc le 1er mai et le 14 juillet, dans le circuit des remparts, qui est là aussi extraordinaire.
Et concernant les remparts, est-ce qu'avec les sites historiques, il n'y a pas eu quand même un petit, pas accrochage, mais...
Il y a eu l'année dernière, en fait, lorsqu'on est soumis à des activités de sport mécanique, on a une relation très proche avec les élus locaux. Et l'année dernière, il y a eu des bouleversements lors des élections municipales. Et suite à cela, on avait une forte tolérance avec l'ancienne équipe, et la nouvelle équipe a un peu découvert nos activités, et on avait prévu une épreuve assez exceptionnelle, qui a un peu fait peur, donc on a dû mettre le haut là, revenir sur un circuit et un tracé naturel, parce que vous savez que quand on est jeune, on aime bien aller de l'avant, et nous on se voyait déjà faire du freestyle dans les remparts, on voyait déjà faire venir des défis. Ouais, donc là on nous a dit, bon, le motocross ok, mais je pense qu'il faut avoir les pieds sur terre, et pas transformer les remparts en stade de Lille.
C'est pas une ville classée historique.
C'est une ville exceptionnelle, Le Quesnoy, puisqu'on a encore conservé toutes les fortifications de Vauban. Faire du motocross dans les remparts, c'est déjà aussi extraordinaire. Donc on nous a dit, bon, on va se calmer un petit peu. Et puis, malgré tout, on a un très beau projet qui est en train de se mettre en place à Le Quesnoy, qui est la création d'un stade de motocross, un stadium de motocross, justement pour soulager les événements dans les remparts. Le PLU a été modifié cette année. On a une grosse réunion de travail le 4 décembre avec tous les intervenants administratifs pour justement finaliser le projet. Et normalement, les premiers coups de pelle auront lieu en août l'année prochaine.
Alors un peu, on repasse un peu de musique et puis on revient sur tes crosses. À Avennes-sur-Helpe, normalement, parce qu'il y a eu aussi un petit problème d'arrosage, oui.
Oui, on va en parler peut-être juste après.
Juste après, oui.
Ok, d'accord. À tout à l'heure.
Out in the sea.
Le magazine de la moto, c'est tous les dimanches de 11h à 12h30 avec au téléphone Xavier Audouard qui est le directeur sportif du Supercross de Bercy-Lille ou Lille-Bercy, on ne sait pas comment on dit, mais à mon avis ça va devenir l'année prochaine simplement Lille.
En effet, oui. Alors tu vois, la Miche, après l'enduro pâle et le salon de Pégancourt, deux grandes manifestations, une troisième organisation de prestige et de dimension internationale s'installe chez les Ch'tis. Alors c'est le Supercross de Lille qui se trouve à quelques mètres des studios. On le voit par la fenêtre. Et on a au téléphone Xavier Audouard, qui est le directeur sportif du Supercross de Lille. Bonjour Xavier.
Salut Guy.
Salut. Salut, bah écoute.
À Radio Campus, en ce beau dimanche. Alors je sais pas comment il fait chez vous, mais moi, on se parle. Moi, je suis à Hossegor, dans les Landes.
Alors on est avec Patrick Pantini. Je sais pas, tu connais peut-être Patrick?
Non, je connais pas, mais.
Alors, mais lui, il connaît bien Hossegor aussi, hein?
Ah d'accord, et eh ben tant mieux alors.
Parce que c'est un pilier du motoclub de Pécancourt.
Ouais. Ça me fait presque un peu peur parce qu'il fait tellement beau ici là. Aujourd'hui on a un week-end, on a dépassé 25 degrés, etc. Il y a tout le monde à la plage, des grosses vagues.
Non, c'est pas vrai.
Et je me dis mince, il va y avoir. Je travaille la nuit sur le Supercross de Lille depuis mon bureau. Qui est une cabane dans mon jardin, et j'ai la fenêtre ouverte et j'entends les oies passer. Alors quand les oies passent, ça veut dire que le froid arrive.
Ah oui.
On se réfugie dans le sud. Et je me dis mince, j'espère qu'on va pas avoir un gros coup de froid pour Lille. Mais enfin bon, ouais, on est.
Mais c'est couvert hein, quand même. Hein.
De toute façon là, on te.
Exactement. C'est pas comme certains touquets où non. Moi j'ai eu
mais là,
sur la glace et tout. Hein.
On te rassure, il fait 35 degrés aujourd'hui à Lille.
Super.
Ah donc tu es voilà, t'es rassuré.
Bon alors Xavier, le compte à rebours commence dans 15 jours, deuxième Supercross de Lille. Peux-tu nous donner quelques détails, d'abord sur la piste et puis par exemple le départ qui se fait pas comme l'année dernière, dis-nous tout.
Oui, on a découvert de Pierre Brouet en dernier, bien entendu, on y était quand même venu un peu avant.
Un peu avant, oui.
Mais quand même, il n'y a rien de tel que dans ce type d'événement, bien sûr, la première, on apprend forcément des choses, quoi. Hein. Donc, bon, on a essayé de prendre en compte avec Jean-Luc Fouché, hein, que tu connais,
ouais,
qui
ouais.
Est un vieux de la vieille et vraiment un grand spécialiste de la question. On a tout simplement essayé de retenir les leçons de l'an dernier, voir ce qui aurait pu être un peu mieux, et puis de le mettre en application cette année. Et effectivement, par exemple, le départ, je pense que l'an dernier, le départ était situé devant la tribune principale. Alors d'un certain côté, c'est sympa parce que toute la préparation avant le départ et tous les gens le voyaient vraiment. Bon, par contre, une fois que ça part, le départ s'éloigne des spectateurs. Il y a même pas que ça, il y avait même aussi quelques petites projections parce que les 450, vous savez comment ça envoie. Hein. Là maintenant, le départ devant le rideau, ce qui fait que les pilotes vont converger vers la tribune principale et bien entendu les tribunes latérales le voient tout aussi bien. Et je pense que ça va être mieux, tout simplement. Sinon, on ne l'aurait pas fait d'ailleurs.
Concernant le schéma des courses, est-ce qu'il est différencié de l'année dernière?
Excuse-moi Guy, je te dis juste quand même deux trois petits trucs supplémentaires. Il n'y a pas que le départ hein, de changer bien entendu sur la piste. on a fait quand même pas mal d'aménagements. Et je pense que les spectateurs et les fans nordistes qui sont venus en masse l'an dernier et qui j'espère vont revenir tout autant en masse cette année, voire davantage, eh bien ils vont quand même trouver un circuit optimisé hein, avec. On a exploité vraiment toute la surface possible pour essayer d'avoir le temps autour le meilleur, parce que quelque part le temps autour ça reste quand même un indicateur très important de la crédibilité d'une épreuve, on va dire. Là nous notre barre, notre objectif, qui est d'ailleurs un temps comparable à ce qu'on avait à Bercy, c'est de l'ordre de 40-42 secondes autour. Ce qui pourrait être mieux que ça hein, en Amérique ils atteignent et dépassent parfois les 50 secondes, mais enfin bon, on est quand même déjà pas trop mal. Et bon, par exemple, pour vous donner une indication, hier soir, il y avait un super cross de championnat de France à Abbeville, qui d'ailleurs était certainement super, hein. J'ai pas encore vu vraiment les images, mais bon, le temps autour, c'était 23 secondes, quoi. Donc là, on est quand même dans une catégorie au-dessus, et c'est le plus long des grands super cross qu'il y a, internationaux, hivernaux, en Europe. Excuse-moi, tu m'as parlé du schéma des courses. Effectivement, là aussi, un changement, pour répondre à ta question, on fait simple, c'est-à-dire que bah, le schéma de Supercross que tout le monde connaît, ça reste quand même des demi-finales, un repêchage, une grande finale par soir, par opposition au format de Grand Prix, où il y a deux manches, évidemment, mais après, celui qui gagne la course, la dernière, n'a pas forcément gagné la soirée. Bon, je pense que pour le grand public, la grande finale, et ce qu'on appelle un schéma pyramidal, c'est-à-dire le suspense qui monte tout au long de la soirée, ça reste quand même le schéma le plus simple. Donc nous, ça nous réclame évidemment plus de pilotes au départ, mais je pense que ça en valait la peine, et pour la deuxième année, il fallait qu'on offre ça au public de Lille.
Oui, et aussi on a eu une question d'un auditeur au sujet des commissaires, Guy.
Oui, enfin c'est une question un peu en devenir après. Tu sais, il y a les commissaires de la Ligue des Flandres qui s'interrogeaient un peu pourquoi la Ligue des Flandres n'avait pas de commissaire de piste sur le Supercross de Lille, et je crois que c'est les commissaires d'Île-de-France qui sont chez vous.
Alors écoute, là, je vais pas dire que tu me poses une colle parce que, mais à vrai dire, j'étais absolument pas au courant de cela. Je vois très bien, j'imagine assez facilement ce qui peut se passer. Ce qui a pu se passer, c'est que quand même, bon, ben, on a fait un supercross à Lille, mais auparavant, on en avait fait 32 à Bercy, donc sur la Ligue d'Île-de-France. Et je crois que, enfin, tout simplement, à mon avis, Noël Renoir, qui est le responsable des commissaires, donc moi, c'est pas ma partie, bien qu'étant la partie sportive, c'est plus une partie, je vais dire, fédérale. Et donc Noël Renoir, qui est notre responsable des commissaires depuis toujours, hein, je crois que Noël et moi-même sommes les deux seuls à avoir fait toutes les éditions du Supercross de Paris, Bercy, Lille, on va l'appeler comme ça. Noël, il avait une équipe qui était opérationnelle à Bercy,
Bercy, ouais.
J'imagine qu'il l'a transférée à Lille, parce que voilà, on a même, je crois, besoin d'un petit peu moins de commissaires à Lille que ce qu'on avait à Bercy, parce qu'à Bercy il y avait tous les couloirs, tous ces trucs-là.
Oui, en effet, oui.
Où il n'y avait pas beaucoup de visibilité, etc. Enfin bon, donc il fallait pas mal de commissaires, et en définitive, donc je pense, ça m'étonnerait qu'il y ait un ostracisme quelconque envers les commissaires nordistes, parce que j'écoutais tout à l'heure, et d'ailleurs je voulais tirer un coup de chapeau, hein, j'écoutais Arnaud tout à l'heure, et avec le boulot et bien sûr le motoclub de Pécancourt, hein, qu'on connaît tous, c'est vraiment une ligue qui bouge. Alors bon, j'ai cru comprendre qu'il y a peut-être des problèmes de résultats ou comme ça, mais pour le reste, je vois qu'il y a des épreuves, il y a des circuits, il y a des gens qui essayent de faire des circuits de motocross aujourd'hui en France, c'est une tannée, quoi. C'est vraiment quelque chose, qu'un motoclub s'appelle et qu'il y ait des gens motivés pour s'atteler à ça avec les contraintes administratives qu'il y a et qu'on connaît aussi sur l'île, hein, sur les supercross et les organisations professionnelles, je peux vous le dire. Mais vraiment chapeau et bon courage, les gars, parce que il faut pas lâcher le morceau, hein. Le territoire perdu se retrouve jamais, et on en perd pas mal, et quand on peut en gagner, ben, il faut surtout pas rater les occasions, mais ça demande beaucoup d'énergie et des gens très motivés, et fort heureusement dans le Nord il y en a encore.
Xavier, il y a Patrick du motoclub de Pécancourt, hein, qui est directeur de course, hein, qui voudrait te poser une question.
Vas-y, Patrick.
Oui, la question a été posée tout à l'heure, pourquoi pas les commissaires de la Ligue des Flandres. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on a quand même des commissaires confirmés, qui ont du métier, qui ont de l'expérience, et bon, ça leur ferait sûrement bien plaisir, si c'est pas complètement, mais de participer à un événement comme celui-là.
Hein. Oui, mais Patrick, écoute, c'est quelque chose que j'amènerai sur la table.
Oui, voilà.
Lorsque, bon, là maintenant, évidemment, j'imagine que
trop tard,
c'est déjà
oui.
Constitué et prévu, mm-hmm. Mais on a des débriefings, hein, bien entendu, chaque année, et étant donné que ce point-là est porté à mon attention aujourd'hui par votre intermédiaire, hein, à tous, c'est quelque chose que j'aborderai, bien entendu. Oui. Maintenant, il est un fait aussi que le Supercross, à ce niveau-là, on va dire, hein, qui est quand même le top niveau qu'on puisse trouver en Europe avec des superstars mondiales, hein, comme Stewart, etc. Ça reste, c'est un exercice relativement particulier. Je dis pas du tout qu'un commissaire bien formé ne soit pas capable de le faire, mais il y a aussi une question d'expérience et je peux aussi comprendre peut-être le fait que Noël, Renoir, donc notre responsable commissaire, et probablement voulu assurer le coup la première année à Lille avec des commissaires les plus expérimentés qu'il avait sous la main, avec de nombreux Bercy derrière eux. Hein.
Oui, oui.
Mais bon, je pense que ça n'empêche nullement. Il y a certainement des commissaires qui peuvent ou ne peuvent pas revenir d'une année sur l'autre, et donc il doit y avoir un roulement naturel. Et donc pourquoi pas, évidemment, dans ce cas-là, faire au plus simple et faire venir les gars du Nord, quoi, hein.
Oui, okay. Voilà, tout à fait.
Xavier, on passe un petit morceau de musique et on te reprend sur le plateau du Supercross. Et avec aussi, les éditions La Rivière nous ont donné des entrées gratuites à faire gagner à nos auditeurs. Et puis, on va les faire gagner à l'instant, quoi, par téléphone. À tout de suite.
C'est toujours un rôle
sympa. À tout de suite.
Just who I am. Don't have no airs and graces. I'm a simple kind of man. Ain't the kind to say I'm sorry or excuse me if you please. And I'm getting a little familiar while I'm giving you a squeeze. But I can guarantee I've got a heart made of gold. I'll stick by you while we're getting old. I get a little crazy and get out of control. Described as being best by you by days. I never put the seat down and I don't do as I'm told. I don't come when you call me and I drink my coffee cold. I don't believe in fairy tales or social control. But that's the way that I roll. Let's go. Yeah, well, that's the way I roll. Telling you I'm
Voilà, on va retrouver Xavier Audouard au téléphone. Mais avant, je vais donner le numéro de téléphone des studios.
Qui explose, hein,
ça explose. Il faut appeler sur le 03 20 91 24 00. 03 20 91 24 00.
Alors Xavier, maintenant on va parler un peu du plateau qui est quand même de dimension plus qu'internationale avec des champions du monde, des pilotes américains. Que peux-tu nous dire là-dessus?
Bah écoute, effectivement, pour rebondir sur l'actualité sportive du week-end, tu vois, il y avait du rugby hier soir. Bon, on va dire comme ça, on a marqué un essai l'an dernier à Lille et cette fois-ci, il faut le transformer. Donc pour le transformer, on a mis le paquet parce que James Stewart, c'est quand même a priori ce qui peut se faire de mieux, quoi. Hein, dans le, il y a tout, il y a l'excitation, il y a le génie, vous parliez tout à l'heure, hein, des mythes de la vitesse comme un Valentino Rossi, un James Stewart, voilà quoi, c'est le même genre d'individu, on va dire. Au passage, je signale que aussi bien Marquez que Rossi, et moi je suis plutôt Rossi, mais bon.
Alors, ça va être facile de faire le débat, hein, parce que je crois qu'il y a beaucoup, on trouve beaucoup pour Rossi, mais pas beaucoup pour Marquez, hein, tout à l'heure.
Ouais, étant Marquez, il y a un petit truc, moi je suis pas super spécialisé de la vitesse, mais bon, c'est un gars qui fait du cross, qui a fait du cross et tout, qui tient la vitesse par le cross, à ce que je sais, et qui en tout cas poste encore de temps en temps des vidéos où on le voit en train de rouler avec des CRF et tout. Aussi bien lui que Rossi, qui est grand pote avec Chad Reed, grand champion australien de supercross, c'est quand même le même monde et c'est les mêmes gens, la même race d'individus, c'est des génies. Et bien sûr James c'est pas le seul, Romain Fèvre, quoi.
Il faut pas oublier non plus que James a eu quelques petits, on a enlevé sa licence pour avoir pris des choses qu'il fallait pas, quoi.
Ouais, mais là-dessus j'ai étudié de très très près la question, et déjà en tant que journaliste bien entendu. Mais bon, ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que James, c'est un garçon qui s'est mis malheureusement un très grand nombre de coups sur la calebasse, comme on dit, et qui a donc eu un certain nombre de traumatismes crâniens. Et traumatismes crâniens, c'est pas une nourriture, hein, c'est pas quelque chose qu'on peut accumuler tout au long de sa vie. Il faut faire très attention. Il était très très suivi là-dessus au niveau médical. Et le médicament qu'on donne par rapport à cela, c'est l'Adderall, qui est une amphétamine et qui est interdite, sauf évidemment lorsqu'elle est prescrite dûment par un médecin pour une pathologie qui est avérée. Et donc, il se trouve que c'est le cas de Stewart, et que donc aujourd'hui, par exemple, sa nouvelle licence, Stewart, il a une exemption pour pouvoir prendre ce produit tout à fait légalement maintenant.
D'accord.
Mais le truc, c'est que voilà, Stewart, ça reste quand même un grand poète aussi, enfin... c'est peut-être pas le mot, mais c'est autre chose. Les Stewart, c'est une espèce de clan, c'est des génies, hein. Même Malcolm, je pense, c'est un garçon qui a vraiment du génie. Mais par contre, ils sont dans leur truc, quoi. Ils sont pas du tout organisés comme un team normal avec des gens hyper sérieux à tous les coins, etc. Ils ont une bande de potes autour d'eux. Et en fait, voilà, la réalité, c'est qu'il est très très mal. Il a pas été conseillé du tout comme il fallait, ou il a été très très négligent. Et puis voilà, il s'est fait choper. Il a pris 16 mois, quoi, de suspension, ce qui a quand même été relativement lourd pour ce genre de truc. D'autant plus que, dans le même temps, la FIM, la Fédération Internationale, lui a effectivement autorisé pour le futur ce médicament. Donc bon, on n'est pas dans la prise de stéroïdes ou des machins ou des trucs qui là peuvent pas être pour autre chose que pour ça, quoi. Bon voilà, c'est je dis pas que ça l'excuse pour autant, d'ailleurs il cherche pas les excuses, il dit juste qu'il en a pris, qu'il a vraiment chargé fort par rapport à ça, quoi. Et bon, ça reste à discuter. Maintenant, nous, ce qui nous importe, c'est qu'il est légal, il est reconnu, sa triche était plus administrative, on va dire, que réelle, puisqu'aujourd'hui il peut prendre le même produit sans que ça pose de problème aux autorités. Donc moi j'ai pas tenu compte de ça pour l'engager à Lille. Il revient en plus, il a faim, il n'a jamais été refusé autant de sa carrière, puisque sans être blessé, il était au repos. Donc, c'est presque encore mieux en termes de spectacle pour nous, parce que je pense qu'il faut s'attendre à voir arriver du grand Stewart, quoi.
Et face à lui, on va voir notre champion du monde, Romain Fèvre.
Absolument, c'est une affiche incroyable, parce que Romain Fèvre, c'est quasiment l'opposé de Stewart sur plein de trucs. C'est-à-dire qu'il n'a quasiment jamais fait un supercross de en tout cas pas un de haut niveau, ou même de niveau national, de SX Tour ou quoi que ce soit dans sa carrière, alors qu'il est champion du monde. Et que quand on regarde Romain Fèvre évoluer sur un circuit de motocross, il y a du scrub, il y a des amortis, il y a tout ce qu'on veut, il a toute la technique qu'il faudrait pour pouvoir être un excellent pilote de supercross, bien entendu, sauf qu'il n'en a jamais fait. Donc oui. Il, à l'heure où on parle, il est dans le sud de la France, où il va retrouver Cédric Soubéras qui rentre d'Amnéville là aujourd'hui, et il se fait un camp d'entraînement tous azimuts pendant 2 semaines. Il a été hyper sollicité après son titre de champion du monde. Yamaha l'a envoyé au Japon. Et il a fallu qu'il aille à Las Vegas assister à la Monster Cup. Donc voilà, je ne vais pas dire que la préparation de Romain Fèvre a été optimale. Mais bon, il a quand même fait du motocross. Hein. Il est allé donc au Japon. Il a fait 2e derrière Cooper Webb, qui va retrouver...
Qui retrouve,
à Lille. Ces deux-là, ils se lâchent pas depuis le Grand Prix des États-Unis, plus le motocross des nations, plus le championnat du Japon, la finale du championnat du Japon, et dans 2 semaines à Lille. Et donc, pour l'instant, c'est Romain qui mène 2-1, et avec la manière, mais Webb a gagné la dernière rencontre, et puis la prochaine fois, ce sera du Supercross, et Webb, c'est quand même le champion de Supercross Côte-Ouest 250 cette année, quoi.
Ouais, en effet, ouais.
Qui est complètement au top, et lui, il va pas avoir besoin de s'acclimater à la discipline, et c'est sa discipline, quoi. Donc, Romain, comment dire, je pense que c'est un énorme pari, c'est fabuleux de la part d'un champion du monde d'avoir relevé un pari pareil. Parce que bon, on sait bien que les team managers européens et tout ça pour les grands prix, ça les excite pas particulièrement que leurs pilotes fassent du supercross. Romain, il a dit moi j'ai envie d'essayer. Lille, c'est une grande épreuve. James, c'est une idole et c'est une référence en matière de pilotage. Rouler avec lui, ça va être un honneur. Donc voilà. Maintenant, dire est-ce que Romain Fèvre va être capable d'accrocher ne serait-ce que Stewart pendant 3 virages ou au contraire, on n'en sait rien. Franchement, on n'en sait rien du tout, mais ce qu'on sait, c'est que ce garçon, chaque fois qu'il nous a surpris depuis 6 ou 8 mois, ça a toujours été en bien, quoi. Donc
voilà.
Donc on est forcément dans le coin de la tête. On se dit waouh, si ça pouvait le faire, ce serait fabuleux. Ceci étant, il y a Christophe Poussel quand même aussi, et lui le Supercross, il connaît. Hein, il a deux titres US en 250. Donc il y a Dylan Ferrandis. Qui est hyper motivé par le Supercross et qui s'entraîne comme un fou lui depuis son retour de blessure du genou. Donc et bien sûr après tous les gars du SX Tour, hein, les Fabien Isoard qui a gagné hier soir à Amnéville, Cédric Soubéras dont j'ai parlé, qui va être le sparring partner de Romain Fèvre. Voilà quoi. Et puis bon, les Ricains, j'en ai parlé aussi. Il y a même Sean Simpson quand même, hein, 4e mondial.
Ouais, qui est aussi là, ouais.
En MX1. Et puis qui est champion d'Angleterre. Enfin, donc on essaye de, on aimerait vraiment essayer d'attirer du public limitrophe, quoi. Lille est vraiment idéalement située, plus encore que Paris par rapport à ça.
Ouais, pour les Belges, Allemands,
voilà,
Anglais.
Les Belges, les Hollandais. Bon, moi, ces gars-là, de toute façon, c'est bien simple. Hein. James Stewart. Et maintenant, il doit avoir 30 ou 31 ans. Il a de longues années de carrière quand même derrière lui, parce qu'il était super jeune quand il a commencé. On va pas le voir peut-être encore pendant 107 ans, quoi. Donc, moi, je me dis que si je suis fan de moto et que je suis belge ou hollandais, il y a James Stewart qui est là, il y a Romain Fèvre, il y a tous ceux dont on a parlé. C'est quand même un spectacle. C'est un truc qu'on voit pas tous les 4 matins. Et j'espère qu'ils vont venir. Maintenant, ça reste un pari. Hein.
Et il va voir aussi en SX2 une première avec Livia Lancelot au départ.
Ouais, c'est l'année où vraiment on se lâche un peu de tous les côtés. Donc j'ai vu Livia. Et je dois préciser quand même que c'est pas moi qui l'ai sollicité par rapport à ça. Hein. C'est pas notre genre de faire un coup médiatique juste pour faire un coup médiatique. Il fallait qu'il y ait une volonté de véritable, un vrai défi sportif derrière ça. Et Livia C'est une fille de défi, quoi. Là, y a aucun doute là-dessus, hein. Et c'est elle qui est venue me voir par rapport à ça et qui m'a dit, Xavier, tu sais, justement, elle est très copine avec Dylan Ferrandis. Il passe du temps en Normandie chez Bruno Lozito. Et Bruno est un très bon coach sportif et connaît bien le supercross aussi. Donc, elle me dit, ils s'entraînent tous ensemble et les échos que j'ai aussi bien de Dylan que de Bruno Lozito sont que Livia, ben, elle les épate, quoi, à l'entraînement pour l'instant. Alors, évidemment, l'entraînement, c'est l'entraînement, la course, c'est la course. Les garçons autour d'elle, ça risque d'être assez intimidant. Enfin, elle a déjà quand même fait un grand prix, hein, avec les garçons.
Oui, c'est vrai, c'était en.
Au Qatar.
Au Qatar, oui. Elle avait marqué un point, je crois.
Mais ouais, bon, elle était un peu obligée d'en marquer un parce qu'ils n'étaient pas vrais, je crois, mais enfin bon, peu importe. C'est là, de toute manière, il n'y a pas de. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du schéma pyramidal pour les 450, hein, catégorie SX1. En catégorie SX2, là, c'est par contre la formule Grand Prix. C'est le championnat de France, hein, donc il y a deux manches officielles de classement championnat de France, comme un Grand Prix, hein, sur deux fois 10 tours. Livia, c'est donc à ça qu'elle participera en tant que wildcard, puisqu'elle ne fait pas le reste du championnat. Elle va être jetée dans le même bain que les garçons qui étaient hier soir à Neville, donc les Tomado, les Florent Richier, c'est des garçons bon, qui. Elle ne va pas les battre, hein. Faut pas.
Non.
Mais l'objectif, c'est de rouler propre, de faire tous les obstacles. Et puis, si possible, de ne pas terminer dernière, elle aimerait bien. Mais bon, le plateau est relevé, hein. On verra bien. Mais Livia, c'est quand même un sacré petit coup de femme, hein. On l'a vu dans les Grands Prix, hein. Elle devrait être championne du monde cette année.
Ouais, et puis...
et d'ailleurs, c'est au lendemain de ça, hein, qu'elle m'a appelé. Elle était tellement déçue et tout ça de
sa place, ouais. Enfin, de cette.
C'est quand même. Attends, c'est une anecdote pas banale quand même, hein. Il y a une loi. De la même façon que les ministres donnent leur nom aux lois, il y a un règlement FIM qui pourrait porter le nom Livia Lancelot, puisqu'ils viennent d'autoriser.
Ouais, ils viennent de le sortir, en effet.
Et voilà, ils l'ont sorti parce qu'ils se sont rendus compte avec, évidemment, quoi, il y avait vraiment très, très peu de chance ou de malchance, je vais dire, pour qu'un truc comme ça arrive à un pilote. Il fait il casse entre le tour de chauffe et la grille de départ.
Xavier.
Et là, elle n'a pas le droit de prendre sa moto de rechange alors qu'elle est là, quoi.
Xavier, on sera obligé de nous quitter, voilà. Parce qu'on
a un grand débat, tu sais, qui nous attend après la.
Un grand débat sur aussi Marquez. Oh là,
il y a plein,
sont complets ici.
Plein de moteurs dans les studios. Ils sont tous pour aussi, c'est ça le problème. On pourra pas faire un débat. Ce sera pas un débat.
Ça risque d'être une mise à mort.
Voilà. Oui, alors voilà.
Xavier.
Oui.
Xavier, on se voit dans 15 jours, hein, au stade. Et puis je te remercie d'avoir intervenu, parce que bon, on s'est connus depuis une trentaine d'années, hein, on s'est vus, on s'est revus. Voilà.
Ouais, c'est très bien. Encore une fois, salut à tous les gars du Nord. Je sais que l'économie, c'est pas facile, hein, que tout le monde est, etc. Ceux qui peuvent arriver ou qui peuvent en avoir les moyens, je pense que s'ils viennent voir le supercross, il leur.
Mais écoute, déjà il y aurait. Pendant que tu me parlais des pilotes, toutes les places ont été offertes donc aux auditeurs qui ont appelé, qui ont saturé le standard. Hein, notre secrétaire le confirme.
Ah ouais, oui.
Saturé de chez Saturé. Voilà.
Il y a Philippe, Renaud, Daniel, et etc.
On les retrouvera au stade Pierre-Mauroy, voilà. Avec un grand plaisir.
C'est sympa d'avoir fait. D'offrir des entrées. Merci.
Xavier, alors tu peux aller. Te faire trempette.
Pas pour longtemps. Une bonne planche. Donc une semaine avant l'événement, et je quitterai pas. Je serai tout près de vos studios et on croisera peut-être entre l'hôtel et le stade, parce que je crois que je passe même devant le studio pour.
Ouais, c'est juste à côté. Ok, voilà. Xavier. Allez, bye, salut.
Bon dimanche.
Guitar, jamming good with weird and gay, and the spiders from Mars, they played it left hand, but
made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick them by smiling, he could leave them to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. God-given ass, he took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy is sucked up into his mind, like a leper messiah. When the kids had killed a man,
c'est spécial moto tout terrain avec notre ami, notre spécialiste Guy Pilarczyk. On va revenir avec notre président, enfin, notre triple président. Alors là, ouais. Ça, c'est chapeau. Hein. Alors là, trois clubs, trois présidences.
Alors Arnaud, tu parlais du Quesnoy. Il y a eu un petit problème à Vennes-sur-Helpe avec l'arrosage. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, cette année, on avait l'idée d'organiser une épreuve de championnat de France avec les motos à l'ancienne et ce qu'on appelle le mini-ver, donc les 65 cm3, donc les plus jeunes pilotes de France. Et parmi ces jeunes pilotes, il y en aura sûrement un ou deux dans quelques années qui sera au SX de Lille en 2027, je pense, pourquoi pas. Donc l'idée, voilà, c'était d'avoir une petite cylindrée et puis en face des motos d'une vingtaine ou trentaine d'années. Et organiser une manifestation comme celle-là, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense, parce que lorsqu'on organise une épreuve avec Patrick au niveau régional, c'est très simple, on griffe le circuit, on le décompacte, on l'inonde et on sait qu'on est tranquille pour rouler alors le matin dans la boue, l'après-midi moyen, mais on finit dans des conditions généralement confortables en fin de journée. Là, sur une épreuve comme à Vennes-sur-Helpe, c'est beaucoup plus compliqué, je le disais, parce qu'il ne faut pas trop arroser, parce qu'on a des petits gamins de 10-11 ans avec des petites motos. Donc si on inonde, ils vont pas savoir rouler. Les mecs avec les motos à l'ancienne, c'est pareil. On a des motos de collection, on n'a pas vraiment envie de les salir.
Et l'âge des pilotes aussi.
Et l'âge des pilotes aussi, bien que pour 50, 55 ans, voire 60 ans, ils mettent encore du très gros gaz. Donc il a fallu trouver un équilibre. Et on avait arrosé légèrement le vendredi, on a réarrosé le samedi. Déjà le samedi soir, des pilotes étaient venus nous voir ou des parents pilotes, ils disaient « Ouais, vous avez trop arrosé, c'est inondé, demain ça va être compliqué. » Donc on s'est calmé sur l'arrosage le samedi. Et le dimanche matin, la direction de course, sans nous consulter, a modifié les horaires en réduisant la pause le midi. Et généralement, on profite d'une large pause le midi d'une heure, 1h30, comme en championnat régional avec Patrick, pour refaire le circuit, réarroser, réhumidifier. Et là, non. Là, ça a été fait à notre insu. On a eu 45 minutes pour réarroser le circuit. C'était au mois de juin, avec 30 degrés. Et à partir de 14h, dès les premières manches, eh bien, une forte poussière est apparue. Et on va dire qu'il y a eu un petit clash entre la direction de course et le motoclub.
Oui. Enfin, le seul problème, c'est que les montées et les descentes, bon, c'est impossible de les arroser d'une façon.
On le fait généralement le vendredi et légèrement le samedi, puisqu'effectivement à Avesnes on a des grandes montées, des grandes descentes très très raides dans un bosquet. Donc lorsqu'on arrose trop, c'est patinoire pendant plusieurs jours. Donc là effectivement on n'avait pas prévu d'arroser, mais la poussière se crée dans les zones d'accélération, c'est-à-dire dans les virages, là où on a les ornières et ensuite les accumulations de terre qui deviennent ensuite poussière. Et même ces zones-là, pour préserver les motos ou pour faciliter le pilotage des plus jeunes, eh bien on nous a interdit de les arroser.
Et malgré tout, tu prévois pour 2016 encore une épreuve ancienne.
Alors, ça a été évoqué le week-end dernier lors de la réunion du motoclub, puisque malgré tout, pour nous, la priorité, ça reste le championnat régional avec Patrick, la Ligue des Flandres. Et on a une date disponible fin juillet. Donc, dès demain matin, on appelle Paris, le siège de la Fédé, pour effectivement trouver une opportunité en juillet l'année prochaine. Et pourquoi pas renouveler cette épreuve de moto ancienne et de Miniver 65.
Oui. D'accord.
Oui, moi, je voudrais vous dire vite fait, c'est vrai qu'à Avesnes, j'en étais direction de course, tu as deux doigts de sortir le drapeau rouge parce que ça devenait dangereux, très dangereux. Le problème, c'est que pour sortir un drapeau rouge dans un championnat de France, c'est délicat. C'est très délicat parce qu'il y a le jury qui est là derrière, il y a les délégués. Il y a les délégués de commission qui sont présents. Bon, voilà.
Oui, mais un directeur de course a le pouvoir d'arrêter
une course. Tout à fait. Si moi je m'étais aperçu que c'était vraiment pas. Ouais, parce qu'Avesnes, ça fait une cuvette, alors forcément, la poussière, elle stagne en bas. Et ça devenait vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Bon.
Alors, voilà. Ce qui est paradoxal, c'est que malgré tout, les pilotes semblaient pas trop perturbés par la poussière, sauf les premiers et second tours.
Les petits, surtout.
Les petits, un peu plus. Ouais. En revanche, les spectateurs, eux, ont mangé beaucoup de poussière. D'ailleurs, Guy, je me souviens que tu étais recouvert d'un film de poussière
à la fin
de la journée.
Guy, alors, qu'est-ce qui t'arrive?
Ah ben, moi, j'étais au cœur de l'épreuve.
On l'a pas reconnu, d'ailleurs.
Mais paradoxalement, de nombreux pilotes du championnat de motocross à l'ancienne nous ont félicité le soir en nous disant voilà, déjà, l'accueil du Nord, l'accueil des gens du Nord, c'est exceptionnel parce que le matin, on croise les pilotes, déjà on leur dit bonjour. A priori, dans d'autres régions, ils ne savent pas se dire bonjour. Le circuit pour eux était parfait parce que même s'il y avait de la poussière lors des premiers passages, ensuite le peloton a tendance à s'étirer et ils ont pu profiter du relief.
Sois prudent dans tes propos, Arnaud, parce que ici, tu sais, dans les studios, on a une mayonnaise. Et tu sais que Mayenne, c'est quoi? C'est le fief du motoclub de...
Ah, je l'ignore complètement.
Erné.
Mais qu'est-ce qui se passe, Erné?
Quoi, qu'est-ce qui se passe?
Il y avait le motocross des nations.
Les nations.
Ah oui, c'est vrai.
40 000 spectateurs.
40 000, ça c'était la grande messe du motocross français.
À 15 euros l'entrée.
Tout le monde dit bonjour aussi là-bas, en Mayenne.
50 euros l'entrée.
Pour les deux jours, c'était 120.
Voilà un président heureux aussi. Voilà.
Oui, avec un coup d'épreuve, à mon avis, exceptionnel. On est proche du million d'euros pour Erné cette année aux nations. Mais en tout cas, ils ont été félicités par l'ensemble des spectateurs aussi.
Je vais devoir mettre un... On va passer à un morceau, parce qu'après on a un grand débat, hein, parce que là on est envahi de motards dans le studio aujourd'hui, c'est exceptionnel. Cette affaire Marquez Rossi, ça fait parler, hein, ça intéresse les gens. Hein. Donc on va passer à un morceau de musique et on va se retrouver avec Marnice.
Alors là,
Carlier. Donc,
on part en Belgique.
On part en Belgique. Oh, quelle est l'émission aujourd'hui?
Confused.
Voilà, on part en Belgique avec notre... c'est Marnix.
Marnix.
Bonjour Marnix.
Spécialiste. Oui.
Alors, tu vas nous parler de cette 32e bourse, donc de bourse d'échange, hein, avec une exposition, avec le thème cette année, c'est la Saint-Sorolea, la Saint-Sorolea.
Oui, je vous salue Guy, je vous salue les motards du nord de la France. On essaye de présenter cette année-ci une expo sur le thème Sarolia avec, entre parenthèses, révolution. Pourquoi révolution? On essaye de présenter une belle exposition avec la moto la plus âgée qui date de 1919. Et après, on présente une dizaine de motos des années 20 et une dizaine de motos des années 30. Après, on a une dizaine de motos des années après-guerre. Et pour finir, on vous présente la toute nouvelle Sarolia, c'est-à-dire la Manx 7, qui date de 2014, toute nouvelle.
Moteur électrique.
Moteur électrique, cela comporte tout juste pas 100 années de construction inventive par Sarolia. Oui, la moto électrique est nous présentée par notre propre membre, M. Thorsten Robbins.
Oui.
Et il a couru avec la moto à l'île de Man.
D'accord, à l'île de Man, d'accord. Très bien.
Oui.
Donc, tu vas nous donner un petit peu les horaires d'ouverture. Donc, c'est tout le week-end. Hein. Ça ouvre donc samedi et ça fermera les portes dimanche soir.
Les heures d'ouverture, c'est donc à partir de samedi de 9 à 18 heures et dimanche de 9 à 17 heures.
Voilà. Et le prix d'entrée est de 6 euros.
Oui, on essaye de tenir toujours les prix démocratiques pour tout le monde. Et à partir de ça, nous avons un bar auquel on peut vous présenter des sandwichs.
Le Picon Outland.
Et, s'il vous plaît, pour ne pas oublier, évidemment, le Picon Outland.
La spécialité du motoclub.
Oui,
voilà.
Très bien.
Et Outland qui vous veut dire...
Très bien informé.
Voilà, très bien informé, oui. Et Outland qui veut dire les terres basses.
Non, pays du bois.
Ah, pays du bois, bah, chaque fois je me trompe.
Pays
alors,
du bois.
C'est très pays du bois. Voilà, donc on prend un Picon pays du bois.
Oui.
Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, bon, on rappelle, c'est Roselair.
C'est on dit Roselard.
C'est Roselard. Alors bon, je dis Roselard.
Et en français, c'est Roulers.
Et Roulers. Alors Roselard ou d'ailleurs. Ouais. Très bien.
On se trouve à 45 km de Lille et à 25 km environ de la frontière de Alois.
Très bien. Et donc c'est effectivement 20 km de Lille, c'est pas très loin. Hein. On peut faire. S'il fait aussi beau qu'aujourd'hui, alors là, ce sera une super balade.
Oui.
Voilà. Que dire encore? Il y a les pièces détachées, hein, bien sûr, pièces détachées. Si on a besoin, si on cherche une vis depuis 15 ans, c'est là qu'on va la trouver.
S'il vous plaît, oui.
Si on
essaye de présenter les pièces quand même qui sont d'avant 1980.
Très bien.
Ça veut dire que les pièces ont déjà 35 ans de vieux.
D'accord. Marnix, pas de problème, on va venir. On vient samedi et dimanche et on va goûter le petit Picon Outland. Voilà. Merci.
Oui.
Et les sacs rentrés.
Ah oui, j'ai oublié. Vous offrez, hein, le motoclub offre 5 entrées donc aux auditeurs de Radio Campus et du magazine de la moto de Kikinkout et Topal. C'est bien ça?
Oui, très volontairement.
Voilà, très bien. Donc on va rappeler le numéro des studios 03 20 91 24 00 pour 5 entrées pour cette 32e bourse d'échange, hein, qui aura lieu donc le week-end prochain donc à Roselard.
Oui, et, hein. Et pour tous les événements, vous pouvez toujours trouver notre événement sur le calendrier Kikinkout.
Très bien, sur le calendrier page 37 exactement, Marnix.
Oui.
Voilà, très bien. Et on rappelle le thème, hein, Sarolia cette année.
Cette année.
Voilà. Merci Marnix, passez un bon dimanche.
Je vous salue.
Et au week-end prochain.
Bon dimanche.
Merci.
Merci.
Prochain.
Merci. Guy, on retourne avec Xavier parce qu'on devait parler. Xavier, je me trompe, tu vois, j'ai trouvé.
Arnaud.
Arnaud. Arnaud, parce qu'il y a encore des choses à dire hein, oui. sur les motoclubs, là, les trois motoclubs. Hein. Il y a Nocturne, je pense que c'est une spécialité, ça, du hockey-nois.
Oui, il y a un projet de Nocturne, ce sera pour 2017, dans le nouveau stade. Mais 2016, l'année prochaine, Nocturne à Étrun, donc ce sera le 30 août, donc sur le circuit d'Yves de Don. Et puis le 18 juin à Avennes, on va rouler le samedi, puisque je vous rappelle qu'au mois de juin, les jours sont très longs. Donc on a l'idée d'organiser une épreuve le 18 juin, de 13h à 22h30, où on va rouler le samedi, on va rouler en soirée, mais sans éclairage. On va juste profiter des somptueux rayons du soleil.
Sans éclairage ?
Ouais, sans éclairage, puisque le coucher du soleil, c'est 22h05 le 18 juin. Donc on va rouler jusqu'au coucher du soleil, sans éclairage.
J'espère que ce ne sera pas trop couvert.
Non, et la variable, elle est de 10 minutes, même si le temps est couvert, donc on pourra, avec Patrick, éventuellement raccourcir une manche ou deux. Mais si on a un somptueux soleil comme aujourd'hui, on pourra justement rouler sans éclairage jusqu'à 22h15, 22h20, en toute sécurité. Et à partir de 22h30, on va faire un petit concours de saut. Là, par contre, nocturne, puisqu'on va, on va utiliser la grande table d'arrivée pour faire un King of Whip, un concours de whip.
Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ?
Ouais, ça, c'est la grande mode en freestyle. Style motocross depuis 2-3 ans, d'ailleurs qu'on retrouvera dans deux semaines ici au stade Pierre Mauroy. On fera un concours de whip avec les 3-4 meilleurs pilotes de la soirée, de la journée. Ça va durer une vingtaine de minutes. Ça sera sous le feu des lumières avec un petit feu d'artifice pour dire de finir la soirée en beauté de 22h30 à 23h.
Mais ce concours de saut, tu le faisais aussi au Quénois cette année ?
Alors, ça a été une grande première cette année. On l'a organisé avec Patrick, justement. Même une grande première au niveau national. On a créé, en fait, un concours de saut en longueur que l'on a intégré au format du championnat régional. Ça a provoqué beaucoup d'interrogations de la part de la Ligue, de la part de la Fédé à Paris.
Fédé, oui.
Tout le monde s'est un petit peu interrogé. On nous a surveillés. On a bien mis en place cela avec Patrick. La première session a duré un peu plus de temps que prévu parce qu'il fallait organiser cela. La deuxième s'est plutôt bien passée. On a eu du très grand spectacle, ça a énormément plu aux spectateurs, tout le monde en a pris plein les yeux. Pour votre info, le saut le plus long c'était 40 mètres, donc on a un pilote qui arrive à fond de 3, qui enchaîne un saut à plat qui fait à peine 1m50 de haut, et il bondit sur 40 mètres de long. D'ailleurs ça a été remporté par François Torel, un jeune pilote lillois assez fougueux. Mais en tout cas, ça, c'était un grand succès. Je pense qu'il faut que le motocross régional reprenne un petit peu de spectacle, un petit peu de show. Et ça, on va le remettre au goût du jour. Donc le 1er mai à Le Quénois, le 14 juillet également à Le Quénois, et puis le 18 juin à Avennes avec le Best of Whip, le King of Whip.
Très bien. Patrick ?
Oui.
Pour terminer, parce que tu sais, on a un sujet brûlant aujourd'hui. Il n'y a plus de place.
Je profite pour dire qu'on a... Cette année, bon, ça s'est bien déroulé. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on a eu des petits problèmes, on va dire, de discipline et un peu d'agressivité de certains pilotes. Alors, il n'y a rien d'alarmant. Je crois que ça fait partie du phénomène qu'on a actuellement. Il faut réagir intelligemment et d'une certaine tolérance. Mais c'est vrai que, bon, s'il y a des pilotes là qui écoutent, des gars qui font du motocross qui écoutent aujourd'hui l'émission, bon, il ne faut pas qu'on aille trop loin parce que ça serait quand même les sanctionner, les disqualifier, tout ça, c'est pas notre boulot, c'est pas notre rôle. Hein, on n'est pas là pour ça. Hein, mais il faut quand même, malheureusement, gendarmer un petit peu de temps en temps. Enfin, voilà ce que je voulais rajouter.
Hein. C'est vrai qu'on a toujours été épargnés dans le monde de la moto de tous ces actes de violence physique ou verbale. Et depuis une saison, et notamment cette année, on a été confronté à cela à chaque épreuve. Donc c'est une grande, malheureusement, une tragique nouveauté d'être face à des parents de pilotes, à des pilotes qui sont agressifs, qui ne comprennent pas qu'on est avant tout là pour se faire plaisir, qu'on est avant tout entre passionnés, que ce soit le directeur de course, les commissaires, les organisateurs, les spectateurs. Et même si 99% de la population se comporte bien, eh bien c'est ce pourcent-là qui le soir en réunion nous a fortement bouleversés, choqués. Et il faut que désormais on se réunisse, qu'on prenne les moyens humains pour contrecarrer cela et rappeler qu'on est avant tout là pour se faire plaisir. Et qu'il y a un règlement qu'il faut respecter et que malheureusement parfois on va devoir être plus strict et sanctionné.
Ouais. Exactement. C'est bon, mon Guy ?
C'est bon.
Bon, alors on va attaquer ce... Attends, je replante le décor, hein, parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans le studio. Ils ont envahi le studio, il n'y a plus de place. Alors, on a deux Nicolas. Et parmi ces deux Nicolas, il y en a un qui a de la chance. Parce que mardi, vous savez où il va ? Ce Nicolas ? Bah dis-le, Nico. Oui, bah oui, parle.
Bon, moi, je voudrais dire bonjour à tous les auditrices, tous les auditeurs.
Ah, tu me fais peur.
Remercier l'ami de m'avoir reçu à son émission. Plus,
dépêche-toi, Nico, on va pas avoir beaucoup de temps.
Donc voilà, je serai à Valence. Enfin,
non, c'est pas vrai, il va à Valence.
Dimanche pour la grande finale.
Voilà.
Et donc, ça promet d'être un peu chaud, vu les événements qui se sont produits à Sepang. Donc voilà, quoi. Après, les avis sont divergents.
Attends, j'ai pas commencé là, c'est pas le débat, Nicolas. Attends, parce que tu vas nous appeler, hein, tu vas nous appeler en direct dimanche prochain. Hein,
dimanche à midi.
Ah, ça sera à midi, la course sera pas partie.
Mais bon, toute l'équipe de Kikaku pour vous tenir.
Essaye d'avoir Zarco au téléphone, ce serait bien.
Pour vous tenir au courant de l'ambiance là-bas sur le circuit, ça promet d'être chaud.
Bon.
J'ai encore un petit truc à dire. On a un champion du monde Moto 2. Après Saron, Guy Bertin, Olivier Jacques, Arnaud Vincent, Jean-Louis Tournade. Et peut-être sûrement d'autres pilotes, et c'est pas reflété dans les médias, et c'est bien dommage. Donc voilà, ça c'était mon coup de gueule.
Bon voilà, alors ça c'est le premier Nico, il y a de la chance. Il y a le deuxième Nico, il y a moins de chance parce que lui il va pas à Valence.
Bon, ah non, il va pas à Valence.
Mais tu regarderas peut-être à la télé.
Ouais,
voilà. Et puis un autre motard qui est rentré dans le studio, c'est Jean-Pierre Bonduel. Jean-Pierre, bonjour.
Ouais, bonjour.
Bonjour, alors toi aussi tu veux parler sur cette fameuse affaire
qui
fait un peu le buzz cette semaine, hein, qui a fait, donc on rappelle les faits, hein, Rossi a quand même élargi la trajectoire, qui fait une espèce de block pass à Marquez, Marquez qui veut absolument forcer le passage, hein, alors qu'il pouvait très bien freiner et repasser sur la droite. Hein,
Marquez a bouchonné quand même,
voilà,
faut le dire.
Alors on revient sur les faits, c'est qu'apparemment Marquez se serait mis d'accord avec Lorenzo, deux Espagnols, hein, pour laisser passer Lorenzo et bloquer Marquez. Apparemment, sur les lignes droites, quand Marquez passait premier, on avait l'impression qu'il ralentissait un peu. Et Nico, tu me disais hier, c'est simple, c'est les télémétries de chez Honda ne veulent pas le donner les télémétries, parce qu'on pourrait voir un peu si
oui, mais ce qui est sûr, c'est que d'habitude, Marquez, quand il part devant tout seul. Là, il partait devant pour se faire redoubler, donc fait perdre du temps aussi, en fait, c'était ça le truc. Donc c'était évident, ça. Donc Rossi a fait un geste d'agacement avant de...
Il faut dire que sur un tour, ils se sont doublés 9 fois. Hein.
Ouais,
tout ça, c'est à 300 à l'heure, quand même. Voilà. Il faut quand même préciser que c'est à 350 km/h. Donc oui, Nico.
Moi, je voudrais dire un truc. Je voudrais bien savoir Lorenzo où il a signé pour l'année prochaine.
On ne sait pas pour l'instant.
Alors,
qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une plainte chez Honda. Marquez est tombé. Ça, c'est les faits. On va rappeler les faits.
S'il est tombé volontairement par un geste Rossi ou pas, on ne le sait pas.
Alors, Marquez dit que Rossi lui a donné un coup de pied.
Voilà.
Arnaud, tu dis tout à l'heure, on n'a pas vu de coup de pied. On voit qu'il a un petit coup de genou.
Et c'est vrai que la vue de l'hélicoptère, comme dit Rossi, on ne voit rien.
Il faut dire que quand même, Marquez est venu poser son casque sur le...
Oui, ça on le voit.
Sur l'arrière de la machine. Hein.
Voilà,
et à mon avis, Rossi a voulu l'écarter.
Il faudrait quand même dire que cette histoire a commencé à conférence de presse jeudi, après le Grand Prix de Phillip Island, où Rossi disait que Marquez avait joué un peu avec lui.
Ouais.
Donc,
et ça, on ne l'avait pas forcément vu en regardant la course, qui était superbe.
Et personne s'était aperçu.
Voilà, ça a monté.
L'impression, c'est sûr.
Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'Honda porte plainte contre Yamaha. Et ce qui se passe, c'est qu'on était contents d'assister à une super finale, parce qu'il y a 7 points d'écart entre Lorenzo et Rossi. Donc, tout le monde attendait ça. Il y a 2 milliards de les images seront retransmises sur toute la planète entière. Il y a 2 milliards de spectateurs pour une connerie, parce que moi je pense que c'est un peu gamin, quoi, de faire ça. La FIM a décidé de faire partir Rossi de la dernière ligne.
En fait,
le week-end prochain,
elle a décidé de mettre 3 points de pénalité. Rossi, il en avait déjà un.
Voilà.
Donc, il doit, du coup, comme c'est une deuxième fois, il doit partir de la fin de grille.
Fond de grille. Est-ce que c'est possible de pouvoir remonter dans le top 3
à la régulière, non.
Non.
C'est pas possible.
Non.
D'accord.
De 2 milliards de téléspectateurs, on va passer à 4 milliards.
Parce que oui, ils vont passer à 4 milliards. Donc,
comment vont réagir
Alors, ils nous privent. Alors, c'est un fait qui nous prive d'une finale vraiment.
Il y a un titre de champion du monde en jeu.
Il y a un titre de champion du monde.
Donc, ils seront entachés n'importe comment.
C'est quand même bien d'aller voir un film et qu'on ne connaît pas la fin. Hein, on ne connaissait pas la fin et on s'attendait, on frottait les mains à voir ce dernier Grand Prix. Et puis voilà qui se passe cette chose.
Oui.
La décision de la FIM et de Dorna est de toute façon remise en cause via les réseaux sociaux, via les rédactions des millions et même des milliards de passionnés de moto, parce que évidemment on a les supporters espagnols, mais je pense que sur les réseaux sociaux on a quand même bien constaté qu'il y avait une injustice de la part de Dorna, le promoteur, puisque très rapidement la sanction est tombée. Il y a eu très peu d'images qui ont été étudiées de la part de la FIM, et dès quelques minutes après la course, on savait que déjà Rossi était sanctionné. Donc je pense que cette affaire-là révèle aussi le comportement du promoteur de la FIM vis-à-vis de l'équipe Yamaha.
Ouais. Et que dire du comportement de Lorenzo sur le podium?
Voilà, également.
Ouais, c'est quoi sur le podium? Bon, alors, podium, il s'est fait huer par les supporters de Rossi. Donc il a eu un geste déplacé.
Il a mis le pouce en bas. Il est sorti avant de faire la tradition du champagne. Il a pas assisté à la tradition du champagne. Il s'est barré.
Ouais. Mais ça
c'est aussi pénisable.
Exactement.
Et Patrick, toi qui es directeur de course.
Il avait doublé sous drapeau jaune pendant la course.
Il a doublé sous drapeau jaune. On n'a pas le droit.
Patrick va nous confirmer effectivement.
Drapeau jaune n'a pas le droit. On double pas.
Ah non. On roule au ralenti.
Et depuis quand on a 150 pions en moins au championnat, quand on a 150 pions de différence, parce qu'il y a Cohn Marquez, on vient pas embêter un pilote qui lui joue au championnat. Quoi. Oui.
Mais ça c'est marrant parce qu'en fait, Rossi il a que 4 victoires cette année. Et Lorenzo 5 victoires, et Marquez qui est tombé tout le temps 5 victoires aussi, donc en nombre de victoires il est mal Rossi, s'il fait égalité en fait c'est pas lui qui est champion du monde.
Ouais, donc ça a été le plus régulier quand même. Voilà. Rossi a quand même été le plus régulier sur l'année quand même.
Voilà.
La constance sur le podium,
mais ça c'est aussi le secret d'un champion, c'est d'être régulier. Je pense que Honda ne veut pas dévoiler sa stratégie d'équipe, sa stratégie de course, on l'a vu avec la télémétrie. Et il y a ce gros secret de polichinelle de la part de Honda, soutenu par la FIM et par Dorna.
Il y a des enjeux, il y a du pognon là-dessus.
Il y a du pognon,
il y a du bricolage.
Honda, c'est le premier constructeur mondial. Pour eux, le titre était acquis depuis le début de saison. Rossi est arrivé.
Arnaud va le couper.
Il finance le moteur en
mode. C'est une heure et demie, ça passe vite. Ouais. Merci Jean-Pierre d'être venu. Merci, c'est pas grave.
Il est venu pour boire un verre, malheureusement.
Merci Guy, on se retrouve le mois prochain.
Et merci à Rossi et à Marquez de m'avoir sabré le speedway et les courses sur glace.
D'accord, ok. Et les deux Nico, Patrick, merci. Arnaud, merci. Super pour les trois présidents, c'est pas mal. Et on rappelle qu'on a des places pour cette 32e bourse. Donc le week-end prochain, on a des places à vous offrir. Vous nous téléphonez, mais on est encore là après au 03 91 24 00. 91 24 00. Merci Laurent. Merci Christine aussi.
Au revoir.
La meilleure ici maintenant. Oh là là. Allez, à dimanche prochain. Passez un beau dimanche. Au revoir.